pousse encore un peu, mais c'est le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des ventes en rafale, la France s'exporte en Inde. D'abord où François Hollande espère conclure aujourd'hui le contrat tant espéré des rafales.
Et dans deux jours, c'est le président iranien Rouhani qui est attendu à Paris. Il devrait signer pour 114 Airbus. Nous verrons à quel point l'Iran est un marché convoité aujourd'hui.
Un an de gauche en Grèce, Tsipras célèbre son premier anniversaire à la tête du pays tout en imposant des mesures d'austérité qu'il avait promis d'éviter.
En France, l'ouverture aujourd'hui des quartiers réservés aux détenus radicalisés dans trois prisons, un test pour tenter d'enrayer le processus.
Et la grande réforme du Code du travail débute ce matin avec la remise très attendue du rapport de Robert Badinter au Premier ministre Manuel Valls. C'est peut-être aujourd'hui que l'accord sera scellé. Le président François Hollande retrouve ce lundi le Premier ministre indien Narendra Modi avec un objectif, conclure enfin le contrat des Rafales. L'Indien avait passé commande en avril dernier lors d'une visite à Paris. Il faut désormais un accord d'État à État. Le récit à New Delhi de Bertrand Galichet.
La France espère conclure ici un accord politique sur ce marché de 36 avions. Ce ne serait que le prélude à une négociation commerciale qui seule pourrait faire aboutir ce long feuilleton. Mais Paris y voit déjà une étape. Hier à Chandigarh, lors du Forum économique franco-indien, François Hollande a tendu une perche au Premier ministre Narendra Modi.
Au-delà des équipements militaires que nous pouvons promouvoir ou que nous pouvons mettre à la disposition de notre partenaire indien, je pense à nos avions Rafale, je pense à des matériels qui peuvent concourir justement à la protection de nos espaces respectifs, mais aussi nous permettre d'agir lorsque le monde est lui-même attaqué.
Une insistance qui frappe ici, l'Inde prend son temps pour négocier le prix et les modalités de ce marché, estimé à au moins 5 milliards d'euros. Le contrat des Rafales semble occulter les autres accords économiques au programme de cette visite d'État, au point que l'on a pu voir dans les mots de François Hollande sur la relation franco-indienne une forme d'empressement.
Il faut aller vite, il faut aller encore plus vite, et même là, c'est trop lent.
Voilà le reportage de Bertrand Galichet à New Delhi avec Marc Garvenès. Et on apprend à l'instant que les sociétés françaises vont investir 10 milliards de dollars, en fait plus de 9 milliards d'euros en Inde sur les 5 ans à venir. Annonce faite par le ministre des Finances, Michel Sapin. Des Rafales pour l'Inde, des Airbus pour l'Iran. La France exporte en ce moment et entend bien profiter du contexte géopolitique pour ce qui est de l'Iran. Le président Hassan Rouhani sera à Paris après-demain, mercredi. Mais l'annonce vient d'être faite. La République islamique veut acquérir 114 Airbus. L'Iran est désormais plus soumis aux sanctions internationales et peut enfin renouveler une flotte vieillissante. Et au-delà de son parc d'avions civils, aujourd'hui tout est à reconstruire dans le pays. Un marché convoité déjà depuis plusieurs mois, nous dit l'économiste Ferdoun Kavan de l'université Paris-Descartes.
Écoutez, d'après les données fournies par la Chambre du commerce et d'industrie de Téhéran, depuis un an et demi, il y a eu 142 délégations étrangères composées de à peu près 4000 personnes de l'Asie, de l'Europe, même des pays en développement. Après la signature de cet accord, il y a eu vraiment une grande ouverture et ces délégations venaient dans un premier temps pour voir dans quelle situation se trouve le marché iranien, ses capacités et son avenir. À l'heure actuelle, effectivement, l'Iran, après des années extrêmement difficiles dues à l'embargo et par la suite également à la chute du prix du pétrole, l'Iran désormais souhaite normaliser ses rapports avec la communauté économique internationale. Cela étant dit, lorsque je parle de l'Iran, il faut savoir qu'il y a en fait deux pouvoirs en Iran. Vous avez le gouvernement de Rouhani qui souhaite véritablement cette normalisation. Et en revanche, vous avez également dans le camp des durs ceux qui craignent cette normalisation et estiment que cela pourrait être dangereux pour le régime de la République islamique. Par conséquent, il y a cette lutte des tendances. Mais dans l'état actuel des choses, Rouhani et son équipe voudraient vraiment aller jusqu'au bout et améliorer les relations entre l'Iran et le monde extérieur, en particulier dans un premier temps l'Union européenne, et puis plus tard, mais c'est beaucoup plus compliqué, avec les États-Unis.
L'économiste Ferdoun Kavand de l'université Paris-Descartes, il répondait à Nabila Hamel. Une transition économique toujours plus douloureuse en Grèce. Cette fois, hier, le Premier ministre Alexis Tsipras a célébré le premier anniversaire de son accession au pouvoir en réaffirmant sa volonté de poursuivre les réformes, dont celle des retraites, particulièrement impopulaires. Mais c'est une condition sine qua non des créanciers pour continuer à aider le pays. Hier, Tsipras réunissait 4000 partisans dans un stade d'Athènes pour fêter un an de gauche. Mais qu'en pensent les Grecs? Nous avons posé la question à l'économiste franco-grec Athanas Kontargiris, également membre fondateur d'Attac France.
Il a capitulé face à une Europe unie contre lui et face aux financiers, et notamment la Banque Centrale Européenne, qui a exercé toutes les pressions qu'il fallait pour le faire capituler. Le peuple grec l'a réélu en septembre, donc de ce fait, accepter qu'il continue à être au pouvoir. Maintenant que le désespoir est succédé à l'espoir, c'est aussi un fait. Que ça soit de droite ou de gauche, les gens sont assez désespérés par cette politique qui a été acceptée depuis le mois de juillet. Il y a là certainement un pari qu'il y aura une diminution de la dette à la clé de cette acceptation, que le plan sera révisé, mais ces deux hypothèses sont loin de convaincre. Par conséquent, il y a toutes les raisons de penser que c'est assez désespérant et qu'on ne voit pas de perspective que la situation économique et sociale s'améliore dans le pays.
L'économiste et membre fondateur d'Attac, Athanas Kontargiris, il était joint par Hélène Masquelier. La Grèce face à la crise économique, face à la crise migratoire également. Et Athènes ne goûte pas vraiment les critiques de ses partenaires européens sur le contrôle de ses frontières. Ce que le pays ne fera pas, c'est emporter le ministre adjoint aux affaires européennes, c'est couler des barques et noyer des femmes et des enfants. Les 28 se déchirent sur l'accueil des réfugiés et les violences de Cologne en Allemagne lors de la Saint-Sylvestre, violences attribuées à des demandeurs d'asile, ont envenimé le débat. Omar Waman est retourné sur l'île grecque de Lesbos, point d'arrivée des réfugiés venant de Turquie.
Sur l'île de Lesbos, les événements de Cologne n'ont rien changé à la détermination des bénévoles venus par milliers aider les réfugiés. Denise, 25 ans, une Allemande originaire de Berlin, prépare des sandwichs pour les nouveaux arrivants.
Ce qui s'est passé a été un choc pour moi, mais cela n'a pas changé mon point de vue. Nous sommes tous les mêmes. Je pourrais être l'une de ces réfugiés, mais il se trouve que j'ai eu la chance de naître en Allemagne.
À peine débarqué et les vêtements encore mouillés, Navit, un Afghan de Kaboul, se réchauffe autour d'un feu.
J'ai vu à la télé ce qui s'est passé. J'espère que tout ira bien, qu'il n'y aura pas de répercussions sur nous. Parce qu'on n'a rien fait. Ces gens ne sont pas éduqués. Tous les réfugiés ne sont pas comme ça.
Avant les agressions de la Saint-Sylvestre, tous les migrants se voyaient délivrer un laissez-passer qui leur permettait de quitter l'île pour Athènes. Mais depuis, ce document n'est remis qu'aux seuls réfugiés en provenance de pays en guerre. Rachid, un Marocain de Casablanca, a tenté de se faire passer pour un Syrien, mais sans succès.
Ils ont dit que vous étiez des Marocains, vous avez l'accent pas des Syriens.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Allez, pousse-toi là-bas. Juste pour les Syriens, les Irakiens, les Afghans.
Les Afghans. Et on vous a pas donné de laissez-passer pour quitter l'île?
Non. Dommage, nous sommes des Marocains.
De nombreux Marocains, mais aussi Algériens, errent désormais sur les îles grecques. D'autres ont été arrêtés et écroués.
Voilà le reportage d'Omar Waman sur l'île grecque de Lesbos.
8h08 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier. Autre exemple des déchirements autour de l'accueil des migrants. Un peu plus loin sur la route de l'exil à Calais, des habitants ont manifesté ce week-end. Inquiet.
Calais, ville sinistrée par la jungle, bidonville accueillant plusieurs milliers de migrants, ultime étape avant de traverser la Manche et d'atteindre l'Angleterre. Aujourd'hui, 8 personnes passent en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, des migrants et des no-borders, ces militants radicaux contre les frontières et pour l'accueil des réfugiés. Samedi soir, ils ont réussi à monter à bord d'un ferry, une première dans l'histoire du port de Calais. Hier, manifestation très tendue également, mais cette fois des commerçants et des employés du port. Ils s'inquiètent de la mauvaise image aujourd'hui de Calais et des répercussions économiques. C'est un reportage de Marc Bertrand.
Dans la foule rassemblée sur la place d'armes de la ville, beaucoup d'anoraks fluo, ce sont les dockers du port de Dunkerque. Ils se plaignent des intrusions répétées des migrants qui retardent leur travail. À leur côté, le patron, le président des ports de Boulogne et Calais, Jean-Marc Puisseau.
Les transporteurs routiers, quand ils passent par Calais, ils sont pas sûrs de pouvoir livrer leurs marchandises à l'heure. Ce qui veut dire qu'on va peut-être leur demander de prendre un autre port. peut-être en Belgique. Ce que je sais, c'est qu'on a commencé à perdre des voyageurs, 30 000 à 40 000, déjà depuis le début du mois de janvier. Ça suffit.
Moins de voyageurs qui arrivent par le port, c'est aussi moins de touristes dans les rues de Calais. Sébastien Paris tient une boulangerie près du centre-ville.
Il n'y a plus d'Anglais. Les Anglais, on ne les voit plus du tout. Alors qu'avant, il n'y avait que ça. Maintenant, on travaille avec des Belges et des Hollandais qu'on ne voit plus quasiment non plus. Il n'y a plus personne le soir. Le soir, vous allez sur les boulevards, il y a de moins en moins de monde.
Les restaurateurs du bord de mer accusent des baisses de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Fabienne Morel est présidente d'un conseil de quartier. Pour elle, Calais n'a plus rien d'une carte postale.
Au niveau des sites du port, au niveau des sites du tunnel, ils ont rasé les arbres, ils ont mis des barrières, on a des CRS partout. On vit plus.
Le but de la manifestation, c'est d'interpeller le gouvernement pour qu'il aide les commerçants de la ville, bien sûr, mais aussi pour donner de meilleures conditions de vie aux migrants qui stationnent à Calais et ainsi améliorer l'image de la ville.
Un sujet de Marc Bertrand à Calais. La question des migrants, mais aussi celle de la lutte antiterroriste. C'est le programme de la réunion aujourd'hui des ministres de l'Intérieur européens à Amsterdam. Le français Bernard Cazeneuve a l'intention de mettre, je cite, une pression considérable, en particulier pour mieux partager les informations sur les personnes jugées dangereuses. L'organisation Daesh menace, elle, une nouvelle fois l'Occident. Elle a publié hier une vidéo qui dit présenter les 9 assaillants des attentats de Paris du 13 novembre, attaque ayant fait 130 morts. 9 assaillants, belges, français, irakiens. Les autorités en avaient identifié 8 seulement. L'État islamique passe sous silence la participation de Salah Abdeslam qui aurait convoyé les kamikazes du Stade de France et peut-être renoncé à un attentat dans le 18e arrondissement. Il est aujourd'hui en fuite. Et puis pour endiguer la radicalisation en France, l'administration pénitentiaire ouvre aujourd'hui des unités dédiées. 3 quartiers d'une vingtaine de places à la prison de Fresnes et dans des établissements du Val d'Oise et de la région de Lille. Car on estime que 15% des djihadistes français sont passés par la case prison. Le but des unités dédiées, c'est de détecter les détenus en voie de radicalisation pour les intégrer dans des programmes spéciaux. Géraldine Blin est la directrice du projet Lutte contre la radicalisation au sein de l'administration pénitentiaire.
Pour que la prise en charge, elle marche et qu'elle puisse se mettre en place, il faut arriver à déverrouiller ces personnes réellement pour savoir où elles en sont et qu'on puisse se fixer des objectifs de là où on veut les conduire. Ça passera par plein d'interventions différentes, y compris des éducateurs, des psychologues. Alors bien sûr, avec le surveillant qui est au cœur du dispositif, avec son observation quotidienne. Sur chacune des unités, ce sont environ 20 à 25 personnes qui seront incarcérées dans ces unités. On a un encellulement individuel parce qu'on veut éviter aussi quand même les effets de contamination. Là, on s'est fixé un curseur entre 3 et 6 mois de prise en charge. L'objectif, c'est de pouvoir évaluer au bout de la prise en charge qu'est-ce qui a bougé chez eux. C'est vraiment l'idée, cette finalité de désengagement de la violence.
Géraldine Blin, la directrice du projet Lutte contre la radicalisation au sein de l'administration pénitentiaire, au micro de Corinne Audouin. Une étape clé du feuilleton Notre-Dame-des-Landes, le tribunal de grande instance de Nantes rend aujourd'hui sa décision sur une éventuelle expulsion des derniers occupants du site. 11 familles et 4 agriculteurs opposés au projet de construction de l'aéroport. Le juge peut soit ordonner l'expulsion immédiate, soit transmettre une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et suspendre de fait la procédure pendant encore plusieurs mois. C'est peut-être la dernière chance du gouvernement pour redonner de l'air au marché de l'emploi et faire baisser le chômage. La réforme du Code du travail débute ce matin avec la remise du rapport de Robert Badinter à Manuel Valls. Les conclusions de l'ancien ministre de la Justice doivent servir de base à la réforme que présentera la ministre du Travail, Myriam El-Khomri, le 9 mars prochain. L'idée, c'est d'apporter davantage de souplesse aux entreprises en leur permettant de négocier leur organisation de travail avec les syndicats. Alors, quels seront les droits fondamentaux du futur Code ? Des éléments de réponse avec Annabelle Grelier.
Il s'agit de dégager les principes juridiques les plus importants à vos yeux qui constituent le fondement même de l'ordre public en matière sociale, précisait le Premier ministre en novembre dernier dans sa lettre de mission à l'ancien garde des Sceaux. Le président François Hollande a déjà annoncé que les 35 heures et le SMIC figureraient parmi les droits fondamentaux. Robert Badinter lui proposait en juin, dans Le Travail et la Loi, le livre co-signé avec le juriste Antoine Lioncan, une série de 50 grands principes autour desquels recentrer le Code du travail Français, devenus, disait-il, obèses et illisibles. Il citait notamment le respect de la dignité des personnes, l'interdiction du harcèlement moral ou sexuel, toutes les discriminations, l'égalité entre les hommes et les femmes ou encore l'interdiction d'employer un mineur de moins de 16 ans. Les conclusions de la mission Badinter seront donc la première pierre du futur code du travail. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, devra réécrire toute la partie du code consacrée à l'organisation du temps de travail, comprenant l'annualisation des heures travaillées, les récupérations, les congés maternité ou encore les astreintes. Par la suite, une commission de refondation du code du travail, qui sera instituée par le projet de loi, prendra le relais et réécrira sur le même modèle tous les autres chapitres.
Et avant de refermer ce journal, cette véritable, on va pas minimiser les choses, révolution sur notre site web franceculture.fr, vous l'avez entendu, on est avec Sandrine Trainer. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour Amélie.
Directrice de France Culture, on inaugure dans une petite demi-heure, 8h45, ouais, notre nouveau site, plus clair, plus intuitif. Pourquoi un nouveau site en fait?
Oui, alors effectivement, on l'inaugure à 8h45, on le fait démarrer comme une fusée, on va compter le compte à rebours. Le compte à rebours pour le lancer. Pourquoi un nouveau site? Parce que les usages changent, c'est-à-dire pour vous, pour moi, très installée dans le monde de la radio, qui écoutons la radio, que nous sommes chez nous sur un transistor, il y a aujourd'hui de plus en plus de monde qui nous écoute tout à fait autrement sur leur ordinateur, sur leur smartphone, sur leur tablette. Et donc il s'agit avec ce nouveau site de s'adapter aux nouveaux usages et de rendre finalement vos journaux, vos magazines, documentaires, fictions disponibles à tout moment, à tout instant et à partir de n'importe quel support. Donc à partir de tout à l'heure, va se constituer non seulement un lieu beaucoup plus agréable à fréquenter, avec des facilités d'usage, ce qu'on appelle un player, vous savez, cette petite flèche qui permet d'accéder directement à vos émissions.
Lire le direct,
voilà, ouais. Tout ça sera très séduisant, très pratique, mais en même temps, ce sera aussi, cela deviendra ce qu'est notre radio, au fond, une bibliothèque infinie d'émissions qui, comme vous le savez, ne se périment pas, parce que les savoirs, la connaissance, la culture, ça s'écoute, ça se réécoute, ça continue à enrichir année après année notre conception, notre perception du contemporain. Et donc nous allons vous guider au milieu de cette bibliothèque immense de savoir et d'émissions et de plaisir aussi. Donc voilà, ça démarre dans une demi-heure et c'est évidemment très, très important pour nous. C'est très important d'être prêt à recevoir aussi les nouvelles générations qui continueront à vous écouter dans un an, dans cinq ans, dans 10 ans, Amélie.
Merci beaucoup Sandrine Trainer. On va casser l'internet donc ce matin à partir de 8h45, mieux que Kim Kardashian. Et puis on annonce également la journée spéciale numérique, Sandrine, le 29 vendredi, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument. Depuis ce matin, vous entendez un certain nombre d'émissions en particulier, ne ratez pas sur les docs, tout le documentaire s'intéresse à l'univers numérique et vendredi c'est du matin jusqu'au soir comment le numérique a changé nos vies.
Merci beaucoup Sandrine Trainer. Le temps de ce lundi en France, une belle journée ensoleillée, des températures très douces cet après-midi, on attend 12 degrés à Dunkerque, 13 à Paris, 14 degrés à Marseille, 15 degrés à Limoges et 18 à Bordeaux, Guillaume Erner.